Women waves.
Woman Waves. Nos devenirs dissidentx atlantx. Avec les voix, interprétations, musique, performances, vidéos et textes de Garance Lafata, Myriam Jarmache, Julie Magnena, Sirenessa, Ibeille, Chaos Angel, Drexia, Lou Rivière, The Autolith Group, Angelica Sagar, Khalas Sharara, Diane Barbé, Farah Azim, Celia Strum, Sibi Abimanoué, Teresa Bartunkova.
Dans l'eau tu es retournée. Pourquoi quitter la mer?
Sirens. They narrate in song. Their vocality doesn't erase their words, but the Western history of imagination doesn't take them into account. They personify a powerful, irresistible, harmonious voice. Women are looked at but not heard. They remain voiceless. Singing embodies them. By modulating into waves, voices show the passionate rhythms of the bodies from which they flow. Women who sing always defy rationality's system. Their voices lead elsewhere. They can't be domesticated. Those who lost their voice or never had the right to make it heard can play with other possible lives, change their names, live many lives with multiple voices.
Il nous faut de nouvelles histoires d'origine et d'évolution. Des récits capables de remettre en question l'unité brumeuse de nos incarnations humaines. Voir où et comment nous pourrions dériver, nous disperser, et nous dissoudre dans un nouvel imaginaire aquatique. Nous sommes des réceptacles, récipients, paniers, corps et masses d'eau dans un réseau constamment mouvant de fiction et de potentialité. Plus de générations, plus de futur, plus de passé. Dans cet espace liquide, hier et demain sont un tout. Nous inventons les langues pour raconter ces nouveaux récits liquides dans une temporalité qui à la fois se remémore et anticipe. Nos maintenant corps humains se souviennent de cette décision jamais prise, de ce retour à la mer non choisi, après y avoir séjourné de nombreuses années, comme nous l'explique Hélène Morgan dans « Descent of Woman ». De ce récit découle une impossibilité totale d'incarnation aqueuse avec à la fois l'intérieur et l'au-dehors. Nos peaux sont des frontières perméables et mouvantes, mais nous formons un corps avec l'eau sans jamais réussir à s'y confondre pleinement. Nous sommes toujours en train de devenir de l'eau, mais l'eau nous dépasse également. Nous devenons de l'eau que nous ne pouvons pas devenir, ni dans un sens de finalité, d'achèvement ou de contrôle, nous dit Astrida Naïmanis dans Bodies of Water, Post-Human Feminist Phenomenology. L'eau ne peut pas, jamais, être neutralisée et nous rappelle que, comme elle, le monde n'est pas un secret à révéler par nous, les humains. Il est plutôt dans un processus constant d'émergence, écrit encore la biologiste et chercheuse en études genre avant de poursuivre. En tant que moteur gestationnel de la vie, de la croissance et du changement, l'eau défie la capture épistémologique et le confinement même ou surtout, dans nos propres corps comme des sacs de transport. Faisant ici référence à un essai de l'autrice de science-fiction Ursula K. Le Guin, La théorie de la fiction panier. Je n'ai jamais pensé que je voulais une part de tout ça, y écrit-elle. Tant que l'on expliquait l'origine et le développement de la culture à travers l'invention et l'usage d'objets longs et durs, destinés à pénétrer, frapper et tuer, ce que Freud a faussement pris pour un manque de civilisation chez la femme est en réalité un manque de loyauté à l'égard de la civilisation, remarquait Lillian Smith. La société, la civilisation dont parlaient tous ces théoriciens, c'était évidemment la leur. Ils la possédaient et ils l'aimaient. Confondaient-ils possession et amour ? Ils étaient humains, pleinement humains, pénétrant, frappant, enfonçant, tuant, comme avec les autres choses et êtres qu'ils possèdent et aiment, aimant et violent. Voulant être un humain, moi aussi, j'ai cherché des preuves que je l'étais. Fabriquer une arme et m'en servir pour tuer, en vain. C'est exact, dirent-ils. Tu es une femme. Potentiellement pas un humain du tout, et certainement un humain déficient. Maintenant tais-toi, nous allons continuer à raconter l'histoire de l'ascension de l'homme héros. Alors, dans son récit, l'autrice imagine qu'une bassine, un panier, un récipient aurait été en réalité le premier outil produit par l'humain. Quelque chose pour conserver, collecter et protéger des mémoires, des histoires et des idées, et établissant une relation privilégiée avec tous les organismes contenus. Cette idée transforme les rapports de domination, puisque nos corps sont déjà eux-mêmes ces réceptacles. En ingérant de l'eau, nous avalons tous les corps contenus, et nous devenons ensemble des flux de culture et de politique. Nous traversons constamment cet espace transcorporel. Comme en écho à ce nouveau scénario, on retrouve en mars 2021 un panier tressé dans une grotte du désert de Judée en Israël. Il est daté de 10 500 ans, ce qui en fait le plus ancien panier découvert jusqu'ici.
Lesbienne géologique. Elle raconte une histoire. Elle se la dit à elle-même, les unes aux autres, calée entre les pierres à l'ombre des arbres. La rivière un peu plus bas, on l'entend vrombir doucement. Des chênes, un frêne, des touffes de noisetiers, plutôt du granit assez clair, mousse, quartz, lichen, coussin, carafe d'eau. La lumière bouge entre les feuilles. Certaines parlent plus souvent, ou plus longtemps. Certaines participent en ne disant rien, comme si elles pensaient plus fort ou s'occupaient d'imaginer des détails dans l'espace entre les choses, laissant les autres décrire les formes invisibles déposées là, confiées. C'est difficile de savoir si elles inventent l'histoire au fur et à mesure, comme si c'était un vague souvenir plus ou moins commun évoqué pour la première fois, ou si elle la déplie comme quelque chose qui n'est pas encore arrivé mais qu'elle connaisse déjà. Pragmatiquement, elle raconte l'histoire de la manière exacte, de toutes les manières exactes où ces deux possibilités sont vraies en même temps. Elles disent que les histoires et le monde, c'est la même chose, ou que histoire est synonyme de relation, et que c'est la matière du monde. Elles disent que mourir, c'est faciliter des rencontres. Elles ont des bites, des clites, des poils sur les seins, des seins sous les poils. Elles disent que c'est différent, des histoires différentes. des seins sans poils, des poils sans seins, des seins coupés, des seins virtuels, des seins disparus, des seins qui affleurent, qui arrivent, qui débordent, qui galèrent, qui sont espérés, qui sont invités, qui sont de passage, des seins qui vont et viennent, des seins dont il n'est pas question. Elles disent qu'elles sont les humaines de leurs chiennes et les vivantes de leurs mortes. Elles se souviennent avoir deviné ou décidé sans trop savoir comment que les traditions sont une forme cruciale de spéculation et que la science-fiction est une puissance d'archives indispensable.
Alors nos corps aqueux contiennent à la fois nos passés aquatiques, nos présents incertains et nos futurs submergés. Il se pourrait que nos existences soient terrestres uniquement dans un laps de temps très court à l'échelle de la Terre. La théorie du primate aquatique, ou AAT, imaginée par Alistair Hardy et reprise par Elaine Morgan dans Descent of Woman, revient sur notre lien particulier à l'eau et parle d'une possible existence humaine semi-aquatique. N'est-ce pas ce que le réflexe de plongée des mammifères humains ou la capacité instinctive de nager d'un nouveau-né démontre d'une certaine manière, nous dit l'anthropologue? Quelque part entre la Miocène et la Pliocène, alors que des vagues de chaleur torride frappent la planète, nos ancêtres primates assistèrent impuissants à la perte de leur habitat naturel. Alors, quittant les forêts déboisées, Yelks trouve refuge sur les rivages et dans l'eau, là où leurs prédateurs ne s'aventuraient pas. Ce nouvel habitat aquatique entraîna des bouleversements physiologiques. Voici quelques-unes des caractéristiques physiques rares, voire inexistantes, chez les espèces terrestres, mais que nous partageons pourtant avec de nombreux mammifères marins. Le contrôle de notre système respiratoire, notre bipédie, le fait d'être quasiment imberbe, la transformation de nos organes génitaux, induisant les rapports sexuels de face, nos glandes de sudation qui évacuent de l'eau et des sels minéraux, nos larmes qui ont plusieurs fonctions, notre graisse sous-cutanée, la grandeur de notre cerveau, etc. Elaine Morgan propose un nouveau regard, basé non plus uniquement sur l'évolution de l'homme comme chasseur, mais sur celle des femmes et des enfants. Dans ce nouveau scénario, des enfants flottant dans la mer s'accrochent aux seins mous de leur mère et à leurs cheveux, ce pourquoi elles les ont longs et forts, tandis qu'elles longent les rivages dans l'eau.
Peut-on être contaminé par une violence que l'on n'a pas subie soi-même?
On peut imaginer que lorsque des milliers d'années après, quand le temps fut à nouveau clément, certaines de nos ancêtres regagnèrent les forêts, tandis que d'autres restèrent au rivage, à l'image du lamantin, un éléphant jamais retourné à terre. Si nous pouvons certainement comprendre les dauphins et les baleines dans leur décision d'oublier une existence terrestre, comme le dit Elaine Morgan, comment comprendre les espèces retournées à la poussière ? Ces Lux qui restèrent virent leur corps se transformer encore, à mesure qu'Elks se rapprochait des abîmes. Nous en avons croisé certaines que nous avons nommées tour à tour Sirenx ou Atlantx, en référence aux fictions insulaires d'Homère et de Platon. Il paraîtrait qu'Elks attendent la grande danse pour ressurgir du fond des océans. Nous avons alors imaginé toutes sortes de musiques pour les faire réapparaître en vain. Les désirs de ces êtres aquatiques sont levés dans l'eau en nous. Elks nous tiennent en haleine. Nos devenirs atlantiques font écho au retour de nos habitats aquatiques, que ce soit de manière temporaire ou permanente. Ces espaces immergés, nos structures vestigiales, les ont gardés en mémoire, appelant depuis nos poitrines aux rivières promises.
Dans l'eau, tu es retourné. Pourquoi quitter la mer ?
Demande l'autrice Luce Irigaray.
Sirens. They narrate in song. Their vocality doesn't erase their words. But the Western history of imagination doesn't take them into account. They personify a powerful, irresistible, harmonious voice. Women are looked at but not heard. They remain voiceless. Singing embodies them. By modulating into waves, voices show the passionate rhythms of the bodies from which they flow.
They narrate in songs.
Women who sing always defy
their vocality doesn't erase
their voices lead elsewhere.
But the Western history of
imagination doesn't take them into account.
Those who lost their voice or
never
had
to make it powerful and play irresistible lives.
Harmonious
change their name.
Change their name.
Women are looked at but not heard. Voices.
They remain voiceless.
Singing embodies them.
Silent.
By modulating into waves,
voices show
the passion doesn't erase
the bodies from which
the Western history of imagination doesn't take them.
Women who sing always defy rationality's system.
Their voices lead elsewhere.
They can't be domesticated.
Those who lost their voice or never had the right to make it heard
can play with other possible lives,
change their names,
live many lives with multiple voices.
Those who lost their voice or never had the right to
Sirens.
Can play
they narrate
with other
in
possible
song.
Lives.
Their vocality their doesn't names. Erase their words,
change
but the Western
names.
History of imagination
many lives
doesn't take them
with
into
multiple
account.
Voices.
They personify the
Sirens.
They narrate in song. Their vocality doesn't erase their words, but the Western history of imagination.
Elles ont remplacé collectivement les dead lines par des circles of the dead. Quand c'est le moment, elles forment un cercle et elles invitent leurs mortes pour les histoires. Elles en avaient assez des fins coupantes. Avec le temps, elles se sont aussi laissées remplacer transition par acclimatation. Et les conséquences ont été dramatiques. Drame, ce qui arrive quand on écoute les pierres. Elles disent en riant que les drames de la matière fondent leur politique. Certaines appellent ça un dramatérialisme. D'autres se laissent glisser dans l'eau glacée qui bouillonne entre les pierres. Lorsque l'une d'entre elles meurt, ce sont les arbres qui s'occupent de tout, et elles suivent. Elles disent que le genre est relationnel et communautaire, pas individuel ni identitaire. Elles disent que le rôle est à la communauté, ce que l'identité est à la suprématie. Son liant, son infrastructure, ce qui la rend possible, ce dont elle a besoin pour être. Elles disent que les suprématies sont toujours des projets, et qu'on abandonne efficacement un projet en arrêtant d'investir plus ou moins passivement dans son prolongement, et en s'empêchant de nourrir la fiction qui prétend que sa disparition laisserait un vide à remplir. Pour ça, elle s'emploie à susciter en elle des sensations de safety par co-régulation des systèmes nerveux, entre eux et avec les choses sans nerfs. Elles appellent ça « ecology of trust ». Elles disent que le « trust » c'est l'inverse de la guerre contre un système. C'est un compost pour ne plus avoir besoin du système qu'on croyait devoir combattre. Elles disent que combattre quelque chose, c'est faire de cette chose un centre. Qu'alors, d'abord, la combattre devient une habitude. Puis que cette habitude mute en besoin. Elles disent que si combattre une chose devient un besoin, alors on finit par avoir besoin de cette chose, par en faire pratiquement une raison d'être au monde. Elles refusent de se battre contre ce dont elles veulent se débarrasser. Pour ne pas rester sans défense, elles fabriquent des armes molles et elles baisent avec les rochers. Elles ont remplacé le nerf de la guerre par le système vagal du combat avorté. Elles entretiennent la différence entre l'absence de combat et la présence du refus d'un combat. This is how stories matter, they say. La matière des histoires, leur épaisseur, leur place dans les ventres.
La figure de l'Atlante est une figure dissidente, celle qui s'est laissée engloutir, celle qui a été noyée, celle qui a survécu, s'est adaptée, s'est transformée, a plongé à l'intérieur d'elle-même. On parla d'abord de parties dissidentes et déjointes, de corps et d'organes dissidents. C'est Lux qui refuse de travailler à la survie d'un système qui n'a de démocratique que le nom. Un système qui sait faire taire, s'il le faut par la force. Une amphibie politique qui manipule à souhait qui et quand est le dedans et le dehors. Aucun retour à la mer possible.
Les dissidentes devinrent alors celles qui s'écartent, cherchent d'autres voies et d'autres espaces de légitimité. Entrant en dissidence comme on entre dans l'eau, devenant des black hackers du capitalisme tardif des baleines devenues détritus, leur conduit auditif pisse le sang de nos radars. On jette leurs restes dans les poubelles municipales lorsqu'elles s'échouent. Saboter et brouiller les communications. Ne jamais se laisser encercler. Tracer ses propres limites. Inventer les langues rêches, mal conjuguées et fébriles. Fabriquer de mots déjà dits, de phrases martelées, de sens diffractés. Les langages que l'on cherche. Faire de leur crachat dans nos bouches des palais aux dents acérées.
Sirens. They narrate in song. Their vocality doesn't erase their words, but the Western history of imagination doesn't take them into account. They personify a powerful, irresistible, harmonious voice. Women are looked at but not heard. They remain voiceless, singing embodies them. By modulating into waves, voices show the passionate rhythms of the bodies from which they flow. Women who sing always defy rationality's system. Their voices lead elsewhere. They can't be domesticated. Those who lost their voice or never had the right to make it heard can play with other possible lives, change their names, live many lives with multiple voices. Sirens. They narrate in song. Their vocality doesn't erase their words, but the Western history of imagination doesn't take them into account. They personify a powerful, irresistible, harmonious voice. Women are looked at but not heard. They remain voiceless. Singing embodies them. By modulating into waves, voices show the passionate rhythms of the bodies from which they flow. Women who sing always defy rationality's system. Their voices lead elsewhere. They can't be domesticated. Those who lost their voice or never had the right to defy rationality's system. Their voices lead elsewhere.
Comme une grande partie de l'océan n'a pas encore été explorée par les humains, c'est l'endroit idéal pour imaginer d'autres mondes et réalités. L'eau donne naissance à des îles, grandes ou petites, réelles ou imaginaires, qui servent de passage entre les récits et air. Le duo de Détroit Drexia sort The Quest, une utopie aquatique inspirée par le massacre du Zong,
les Drexians seraient les descendants d'esclaves africaines enceintes, jetées à la mer lors de la traversée de l'Atlantide, cette Atlantide noire au sens où Paul Gilroy l'entend dans « The Black Atlantic Modernity and Double Consciousness », nous plonge sous les eaux, au fond d'un océan peuplé de mutants aquatiques et d'autres protagonistes qui habitent les mers. Est-il possible que ces esclaves aient pu donner naissance à des bébés qui n'ont jamais eu besoin d'air ? Les Drexianx sont-ils des descendants mutanx à respiration aquatique de ces malheureuses victimes de la cupidité humaine ? Des expériences récentes ont montré un enfant humain prématuré sauvé d'une mort certaine en respirant de l'oxygène liquide à travers ses poumons sous-développés, peut-on lire sur la pochette de leur album The Quest. Ce n'est plus le mythe d'un État-nation assoiffé de pouvoir et cherchant à tout prix à s'expandre, mais celui d'une libération. Comme l'écrit l'artiste Netris R. Gaskins, l'Atlantide noire, créée des mondes et des modes de représentation issus des principaux et principales concernex. Dans le lexique de la dissidence, c'est un endroit où les opprimex peuvent conspirer en vue de leur libération, un lieu où les migrantx, volex ou abandonnex peuvent survivre aux conditions hostiles. Contrairement au récit de Platon, la disparition de l'île dans la mer est une histoire de survivance. Ce n'est que le début du voyage dans de nouvelles spatialités, réimaginant de nombreux concepts fondateurs, qu'ils soient culturels, scientifiques et technologiques. Un portail entre les mondes connus, dans une réalité hybride ou une aquazone technoculturelle, jusqu'au voyage de retour, dont la nature est largement spirituelle. Il existe un point commun entre les mondes, dans la frontière aqueuse entre les univers des vivants et des transformés, créant des mondes représentatifs autodéterminés. Peut-on lire dans Black Panther contre l'Atlantide noire, afrofuturisme, internationalisme révolutionnaire et capitalisme noir de Assad Haider.
I think the noblest sea that Turner has ever painted, and if so, the noblest ever painted by man, is that of the slave ship. The chief academy picture of the exhibition of 1840. It is
a sunset on the Atlantic after a prolonged storm, but the storm is partially lulled and the torn and streaming rain clouds are moving in scarlet lines to lose themselves in the hollow of the night.
Dans l'eau, tu viens de tourner, pourquoi quitter la mer?
Nos XX aux doubles embouchures rient pour les abattre de nos joies. Nous dissimulons de nos cheveux, illumination et fêlure, nos doubles capitales affamées sont autant de blessures béantes, des entailles de l'horizon que nous crachons au monde, sans aucune pudeur. Nos XX flamboient, ça grouille à l'intérieur, de bactéries multicolores qui gisent dans les fonds océaniques, désert de leurs pisses médicamenteuses et de plastique lyophilisés. Les courants de nos peaux sont gonflés, pullulants de spores, de porcs, de poissons morts, de vomissures. Nous sommes sanguinaires, la vue d'autant d'eau dans les mers leur retourne l'estomac.
Dans l'eau, tu viens de tourner, pourquoi quitter la mer?
Astrida Neimanis, dans Bodies of Water, Posthuman Feminist Phenomenology, explique le lien particulier qui lie les femmes à leur incarnation aqueuse. En tant que corps aquatique, nous nous ressentons moins comme des entités isolées que comme des tourbillons océaniques. L'espace entre nous-mêmes et les autres est à la fois aussi éloigné de la mer primitive, mais aussi plus proche de notre propre peau. Les traces de ces mêmes débuts océaniques circulant toujours à travers nous. L'eau est entre les corps, mais aussi fait corps, avant nous et au-delà de nous. Les catégories confortables de nos pensées commencent à s'éroder. Le corps fluide n'est pas spécifique à la femme, mais l'incarnation aquatique reste une question féministe. Penser en tant que corps aquatique a le potentiel de faire naître de nouveaux concepts et pratiques féministes. L'eau coule à travers les différences. Quelle sorte d'éthique et de politique pourrais-je cultiver si je devais reconnaître que ce que je ne connais pas de l'autre passe néanmoins par moi, tout comme je passe par elle.
Les dissidentes atlantes d'incarnation aqueuse disent: après nous avoir frappés encore et encore, et devant toute cette eau coulant de nos corps ouverts, ils reculeront, alors nos rébellions collectives enfouiront toutes les cités de la terre. Entre nos expirations et inspirations, quand nous flottons, hors et dedans, se trouvent nos aspirations, elles sont létales. Nos langages échappent à leur compréhension, à leur logique, à leur sens. Les mots, nous les crachons. Nous avons les mêmes organes génitaux que les dugongs, peut-être les mêmes visages. Nous sommes territoire et terreur. Nos cordes vocales ont été arrachées il y a longtemps, mais nous chantons encore dans nos ventres. L'autrice Hélène Cixous écrit dans Le rire de la méduse: ils disent qu'il y a deux irreprésentables, la mort et le sexe féminin. Car ils ont besoin que la féminité soit associée à la mort. Ils bandent par trouille pour eux-mêmes. Dissidentx, insulerx, distantx. Le corps des Atlantes représente ce qui nous sépare. Ton idéal ne vient-il pas du fond de la mer ?
Être sous l'eau suggère être désorienté ou confus. Mais en réalité, nous apprenons de nouveaux récits auprès de celles qui ont longtemps nagé, plongé, flotté, se sont submergées, ont développé différents types de mondes. Être déterritorialisé, si cela signifie être en mer, nous invite à imaginer ce que cela signifierait de laisser la mer nous tenir, dit encore Astrida Neimanis.
Se réunir et se dissoudre, se remplir et se vider, se propager, selon des pratiques à la fois dangereuses et prometteuses. apprendre dans l'eau à mouvoir un corps avec d'autres corps, couler, sombrer. Voilà entre autres ce que nous convoitons.
This film, as I said, is called Hydra Decapita. You cannot see the blacks. You know, the film is about the ocean, but we don't shoot the ocean as such throughout the film. You see it in the beginning, at the end, but it's you don't really see the blacks in this light. Anyway, there are a few areas of research that brought this film about. Firstly, we looked at the relationship between finance, capitalism, and death through the Atlantic slave trade. And we focused on a case in 1781 in which a slave ship called the Zong was travelling from Jamaica to Liverpool in England with a cargo of Africans. The ship became lost, and the captain decided to throw 133 slaves overboard to murder them all, and then to claim the insurance for the loss of that cargo. The case came to trial in 1783. But it was not a case of murder, it was a case of two competing claims about insurance. This was a historical moment for us in which the regime of justification of economics trumps questions of atrocity and becomes, for us, a case study of how financial capitalism operates and continues to operate necropolitically. Hydra Decapita is a way of connecting this historical atrocity to the present of financial capitalism via a few other routes. We link the 1781 atrocity to J.M.W. Turner's painting, The Slave Ship, from 1840, which attempts to visualize this atrocity. There is another story in this film, and that is the story of Drexia, an African-American electronic duo from the early 90s, who created a mythos on their album covers and record sleeves and titled their music as the names of storms. They were drawing the afterlives of the drowned and murdered slaves who lived on and become superheroes and heroines and managed to breathe underwater in what they called a bubble utopia. This subconscious world of the post-slave who has survived and mutated underwater between home and the world appealed as mutation has for us it's in various registers. It's both historical and aesthetic. It is methodological and it is anthropological. It is ontological and it is political. And it allows us to move between registers. Whereas in the 90s people might have narrated this film or our work in terms of identity, we prefer to narrate it in terms of mutation. The title of this film is also related to another mythos created by the Puritan elders to justify mercantile seafaring capitalists, the early pirates, who needed to cite a myth, early pirates and colonialists, who needed to cite a myth to justify and announce the necessary killing of those who resisted them. They saw themselves as the Puritan elders, as Hercules, while the Hydra, and I quote, and the Hydra is a many-headed serpent, consisted of those who questioned the authority of minister and magistrate, the expansion of empire, the definition of private property, and the subordination of women. The Hydra, and I quote, and I'm quoting from a book called The Many-Headed Hydra by Marcus Raedecker and Peter Limbaugh, which was kind of a book that we researched for this film. The Hydra becomes a means of exploring multiplicity, movement, freedom, and connection, the long waves and planetary currents of humanity. The multiplicity was indicated in the multitudes who gathered at the market, in the fields, on the piers and the ships, on the plantations, on the battlefields. The power of numbers was expanded by movement as the Hydra journeyed and voyaged or was banished or dispersed in diaspora, carried by the winds and the waves beyond the boundaries of the nation state. sailors, pilots, felons, lovers, translators, musicians, mobile workers of all kinds made new and unexpected connections, which variously appeared to be accidental, contingent, transient, and even miraculous. So the, you know, these Puritans imagined, created this myth that the pirates, the colonials, were Hercules, and they'd constantly have to kill this Hydra, lop off the heads of the multitude as such. It is that world of surface actors that the many-headed Hydra, a singular body of diverse proportions, and the world of the drowned that we bring together in the discourse of this film. They host a transnational being speaking the unconscious, the deep sea, the crimes of capitalism and racism, and they're interchanging in roles.
Les êtres X, Sirenx, Atlantx sont celles des contes oubliés. Mamiwata et les Manja font danser leurs adeptes jusqu'à ce qu'Elx perde le contrôle de leur être, les emmenant avec elles dans les fonds marins. Selon une légende afro-brésilienne, les Manja récupèrent dans la mer les corps des Noirx jetés par-dessus bord durant la traversée des esclavx. Les mythes se superposent, racontant des histoires de soins, de conservation, de liberté, d'empouvoirment dans les deuils. Des pertes collectives qui se mêlent à d'autres plus intimes. Nos mers sont des cimetières, des nécropoles, des tombeaux où gisent les corps qui comptent moins. Nos eaux sont douloureuses.
Hélène Cixous écrit encore. On nous a figé entre deux mythes horrifiants, entre la méduse et l'abîme. Il y aurait de quoi faire éclater de rire la moitié du monde si ça ne continuait pas. Car la relève phallogocentrique est là et militante, reproductrice des vieux schémas, ancrée dans le dogme de la castration. Ils n'ont rien changé. Ils ont théorisé leur désir pour de la réalité. Qu'ils tremblent les prêtres. On va leur montrer nos sextes. Il suffit qu'on regarde la méduse en face pour la voir. Et elle n'est pas mortelle. Elle est belle. Et elle rit.
Dans l'eau, tu es retourné.
Ton idéal ne vient-il pas de la mer ?
Elles ont remplacé depuis longtemps « gender identity » par « gender role » et elles n'en parlent plus vraiment. Elles sentent parfois qu'ils traînent dans leur corps et leur forêt des vieilles peurs quand l'expression « gender role » est prononcée. Elles disent que la peur, c'est l'oxygène nécessaire à la combustion des bûchers. Elles disent qu'il y a des dizaines de genders et que les rôles sont versatiles. Elles disent que le rôle est une forme de stabilisation, densification, épaississement ponctuel de certaines relations. Alors que l'identité serait plutôt leur négation, le projet de faire du monde un plan neutre avec des choses distinctes posées dessus, supposées interagir vaguement dans un second temps, des chevaliers dans la nature, des colons dans la jungle, des soldats dans la panade. Elles disent qu'elles sont fabriquées par leurs relations. Que leurs relations précèdent leurs existences. Elles disent que c'est pour ça qu'elles ont besoin des rochers tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que sans les arbres, elles oublient qui elles sont en train de devenir. Elles ont remplacé la politique identitaire par une politique des histoires. Elles disent que si le ministère de la transition écologique existait toujours, alors il serait là surtout pour subventionner les mamectomies, implants divers et autres tailles de saison. Lorsque la lune est en gémeaux, elles font des blagues. Elles s'appliquent à ne pas trop discuter des différences potentielles entre vrai et faux. Certaines trouvent que Hormone est un joli prénom. D'autres suspectent Homer d'être une déformation d'Hormone. Elles disent alors que les corps sont des odyssées dont les messagères et leurs invités racontent les histoires qu'elles veulent, ou qu'on les rend capables de raconter. Hormones as storytellers, they say. Lorsqu'elles disent « ou », ça veut toujours dire « et ». Elles continuent à utiliser « ou » pour la forme de la bouche quand « ou » est prononcé. La plupart maintient qu'elles n'ont jamais pu lire outre la première page des guerrières de Wittig. Cueillies par le cercle qui la suit, elles font demi-tour, elles y retournent encore et encore. Elles disent que les pronoms sont cosmétiques, qu'elles portent leurs pronoms comme elles portent une jupe, une barbe ou une cicatrice. Elles trouvent important de maquiller les faits. Elles disent qu'une vérité doit être capable de démontrer son propre intérêt en collaboration avec les alliances et histoires qu'elle invoque pour être acceptée comme vraie. Elles disent qu'elles ont toujours su que Matrix est un film lesbien. Leurs beats ont des formes variées et poétiques. Elles ont des beats femmes, des beats butch, des beats molles, des beats gorgées de sang, des beats en silicone de toutes les couleurs, des beats clits, des clit beats, des beats chattes et des beats dont on ne doit pas prononcer le nom. Des doubles beats, des triples beats, des beats à différents niveaux d'intensité. Elles en font bon usage. Parfois, elles baissent des PD qui écrivent des chansons et des poèmes de pédale pour les remercier des savoirs partagés. Un jour, un PD un peu anthropologue a écrit un article nuancé, sexy et généreux intitulé « Poétique de la bite et lesbogéologisme. Sous-sol, friction, perspective ». Après une première lecture par un groupe enthousiaste, a été décidé d'un commun accord de composter le manuscrit plutôt que de le publier, pour faire pousser des légumes à la place, et de laisser cet épisode devenir une légende périphérique à raconter quand il fait chaud. Elles disent que le processus de consensus est opposé à celui de la concession, qu'une décision collective est une forme aiguisée, écologique et vibrante de ce qui était un peu plus tôt compris comme un ensemble de besoins individuels, et pas une synthèse approximative, incomplète ou bâclée des désirs de chacune ou l'expression d'une majorité cachée. Elles disent que, comme la justice et d'autres formes de consentement, d'intimité collective ou de transformation du milieu, articuler les besoins d'un groupe, c'est donner naissance ensemble à un être déjà vieux, comme l'évolution d'un Pokémon. Elles disent que l'histoire du jour n'a pas vraiment commencé, qu'elles sont en train de tracer le cercle, qu'elles caractérisent le territoire spéculatif. Elles disent que raconter une histoire ressemble au jardinage. Ce sont les plantes qui s'occupent de pousser. Celles qui racontent ou qui jardinent sont seulement des facilitatrices. Elles tiennent l'espace, elles invitent. Elles écoutent, elles désirent, elles suscitent. Elles disent que tout ce qu'elles savent, les rivières leur ont appris. Elles apprennent tous les jours à apprendre des rivières, en leur faisant confiance, en immergeant leur corps, en étant avec elles, en écoutant comme elles, dans leur vacarme. Elles disent qu'elles sont la rivière quand elles sont dans son lit. Que faire partie d'une rivière, c'est être la rivière. Elles appellent ça une métonymie géologique. Elles disent qu'une rivière n'est ni juste de l'eau, juste des rochers, juste des arbres, juste des poissons, des insectes, des oiseaux, mais toujours seulement une composition de toutes ces choses et d'autres corps encore. Un flot de relations qui se forment, se déforment, s'informent. Certaines disent qu'à force d'en faire partie, elles sont la rivière, même quand elles sont très loin d'elle. Elles finissent par s'appeler pareil. Tout comme les arbres qui y poussent restent la rivière, que l'eau soit réduite à un filet inaccessible ou que leurs racines soient submergées par la crue. Les savoirs des rivières, c'est la différence entre les histoires des arbres et les histoires des pierres. C'est-à-dire l'écart entre elles. Leur relation. Elles disent que c'est compliqué de le dire avec des mots, que quand on finit par faire partie, on sait. Elles disent qu'elles ne peuvent pas parler de l'eau sans pleurer et que pleurer, c'est ce qu'elles peuvent dire de mieux de l'eau. Que les savoirs des rivières sont une forme d'épistémologie de et par l'eau qui coule. Que les rivières redéfinissent la notion même de savoir, ou plutôt sa matière.
Les femmes et les enfants d'abord. Oui, pour être écrasée. Cassandre accepte le don de la prophétie, mais se refuse au dieu. Cassandre se fait cracher dans la bouche, ce qui l'empêche de se faire comprendre ou d'être cru par quiconque. S'ils nous crachent dans la bouche, nous leur pisserons dessus. On nous apprend la honte. C'est comme ça qu'on nous garde captives.
Discréditer nos paroles, les rendre subversives. Devenir quelqu'un, est-ce apprendre à faire taire les autres?
Désintégrer les agonies primitives,
faire sombrer les édifices, des cuisses, des figures lascives, couler vos tours, les démanteler, les exiger, les déshériger,
des héritages disputés, emmouler les petites filles au corps mal élevé, bonheur à nous, les omisx, les écartex de la scène des héritages, nous nous inspirons, nous nous expirons, sans essoufflement, nous sommes omniscientes, elle dit. Submergex, des jets retournés, la ville déserrigée, son bras coula, s'enfonça dans la sienne, pas de rescue, les masques arrachés, cachaient à peine, la sidération sous les coups, rejoindre les peuples, les générations noyées, c'est lux, jamais revenux, l'horreur dans l'eau s'exerce en miroir de vos haines, vous encerclez nos revendications pour mieux nous gazer, exploser nos chairs, mais vos canons à eau ne font que remplir nos mers. Ça gicle dans vos yeux, sans technique de doigté, pour maîtriser nos flux. Soyons mal aimés, mal baisés, les mentons hauts, les casques vissés, à portée collective, rassemblons-nous, en vagues, aller haut, ne pas retomber, transmettre le savoir dans la lutte, dans la chute. Nous sommes les guerrières de l'autre pas, noyées des larmes de nos ancêtres. Trépassé, coulé, des trépassés, d'union dévolue, passé très très près, de la jetée, très très près des océans désirés.
Siren. They narrate in song. Their vocality doesn't erase their words, but the Western history of imagination doesn't take them into account. They personify a powerful, irresistible, harmonious voice. Women are looked at but not heard. They remain voiceless. Singing embodies them. By modulating into waves, voices show the passionate rhythms of the bodies.
They narrate in song. Their vocality doesn't erase sight, always defy rational.
The Western history of imagination, their voice doesn't erase those words. The Western history of imagination doesn't take them into account.
They narrate in song.
Their vocality doesn't erase their harmonious voice.
The Western history of imagination doesn't take them into account.
They remain personified, powerful, embodied,
irresistible, harmonious.
By modulating into waves, voices show the passionate rhythms of the bodies.
They remain voiceless. Singing, embodying, always defy rational.
By modulating into waves, their voices show the passionate rhythms of the bodies from which they flow.
Those who lost their voice always defy rationality to make it heard.
Can their voices other possible lives?
They can't be domesticated.
Change their names.
Those who lost their voice will never have the right to make it heard.
Can play with other possible lives.
Change their names.
Sirens.
Change their names.
They narrate many lives with multiple voices.
Their vocality doesn't erase their words, but the Western history of imagination doesn't take them into account.
Sirens. They personify
a narrative song.
Their vocality doesn't erase their words, but the Western history of imagination doesn't take them into account.
They personify a powerful, irresistible, harmonious voice.
Women are looked at but not heard.
They remain voiceless. Singing embodies them.
By modulating into waves, voices show the passionate rhythms of the bodies from which they flow.
Women who sing always defy rationality's system.
Their voices lead elsewhere. They can't be domesticated.
Those who lost their voice or never had the right to make it heard
can play with other possible lives,
change their names,
live many lives with multiple voices.
Elles ont observé que parmi elles, celles qui portent et accouchent des bébés sont plutôt des garçons et des butches. Elles spéculent que si on avait continué à utiliser le mot « discipline », alors celle qui permet d'étudier ce phénomène s'appellerait « histoire-géographie ». Elles disent que guérir, c'est conspirer avec et pas contre. Que parfois, les redondances grammaticales sont des contresorts. Elles disent que guérir est politique et que s'organiser politiquement sans intention de guérison multiple et collective ou amorcer des guérisons sans articuler leurs implications politiques sont deux exemples de projets dangereux. Elles disent qu'elles préfèrent le risque au danger. Elles disent que les noms sont des légendes, des vieilles histoires, et que les armes sont des antennes, des formes de communication, des prises d'air. Elles ont constaté que les métaphores étaient devenues inutiles et inutilisées, que tout ce qu'elles disent est entendable au sens littéral. Elles disent qu'il n'y a pas une trace de subjectivité dans une personne qui écoute. Certaines, parfois pendant plusieurs saisons, ne s'adressent plus qu'aux orties. Puis ça change. Elles disent que les narrations sont des invocations et que les souvenirs sont des prophéties. Elles peuvent parler pendant des jours de la manière dont elles touchent les pierres et dont les pierres les touchent. Elles disent que les termes stone butch et dyke sont des formes de divination minérale. À un moment, chacune partage ses géologies ancestrales. Elles déplient les histoires des sols et leurs humaines, les histoires qui les ont fait naître. Celles dont elles se souviennent, celles qu'on leur a racontées mille fois, celles qu'elles auraient voulu qu'on leur raconte, celles qu'elles auraient voulu ne jamais avoir à entendre. Elles décrivent, prolongent, étoffent, décalent et se laissent être modelées, apaisées, bouleversées encore par les terres de leurs ancêtres. Elles disent les couleurs, les textures, les friabilités, comment les plantes y vivent, y poussent, ce qu'elles y transforment, comment l'eau, les champignons, les autres animaux y négocient des formes de vie et de mort, les instabilités, les communs, les géomorphies collectives. Il est question de lave, de croûte terrestre, de colonisation, de corps déplacés, d'extraction, de minerais, de failles, de sécheresse, de pluie, de fer, de résurgence, de fertilité, de forêt, de cérémonie, d'architecture, de lichen, d'agriculture, de grottes, de gravures, de tombes, de vallées, de fontes des glaces, de cols, de fossiles, de saisons, de moissons, de moussons, de sources, de canaux, d'océans, de plateaux, de boue, de feu, de guerre, de tremblements, de sismicité, de densité, de cristallisation, de vitesse de refroidissement, de sédimentation, d'infiltration. Chaque histoire est toujours une histoire dont la composition est minérale. Elles disent que les histoires de sol sont des histoires de corps. Elles disent qu'une personne qui écoute est un monde et que le monde est une personne qui écoute. Des lesbiennes géologiques, elles racontent une histoire. Elles disent que les semis sont terminés. Ils auront besoin d'être arrosés seulement si la rosée du matin diminue. Elles disent que ce qui pousse plus tard est souvent surprenant.
Vous avez écouté les textes suivants de Magali Dougou, Introduction, lu par Garance Lafata et Myriam Jarmache, Sirène et écho, lu par Ralas Charara, musique de Julie Magnana, Sirène SA, eBay, Chaos Angel, Diane Barbé et Vaguement Ensemble, avec Farah Hassim, électronique, Diane Barbé, électronique, Célia Strum, voix, Sibi Abimanoué, voix, et Teresa Bartunkova, lumière. Lecture de Armes molles, de et lu par Lou Rivière. Extrait vidéo de Hydra Decapita, de The Autolith Group. Extrait de L'Hospitalité à la recherche d'une voix commune durant les Luma Days en 2018 avec Angelica Sagar, membre du Autolith Group.